10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast Geekbécois débute maintenant.
Hello, hello, hello tout le monde! Bienvenue!
Hello!
Bienvenue à l'édition live de Geekbécois le podcast. Bienvenue à Geekbécois Extra. Je ne m'appelle pas Lynn Boutillette et je ne suis pas une fille, mais je serai quand même votre animatrice pour la soirée. Et ce soir, on est avec Alexandra.
Salut.
Avec Jean-François.
Salut.
Avec Laurent.
Et bonjour.
Et Bruno.
Bonjour.
Et on a quelques petits sujets à vous entretenir et participer avec nous. On a besoin que vous nous jasez ça. Et voilà. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Comment vous portez-vous?
Ça va très bien, toi.
Très, très bien.
Ça va
super
pas pire.
Bien.
Ça va pas pire. Alors, c'est notre premier podcast live.
Oui.
La question, c'est pourquoi?
Qui peut me répondre?
Bonne question.
Ben, moi, je dis que c'est parce qu'on a tellement de demandes de tout le monde. Ah, on aimerait ça vous avoir 24 heures sur 24, 7 jours semaine.
Non, ben, disons que principalement, c'est qu'on faisait jusqu'à date un podcast par mois. Et ben, c'est long entre les podcasts. Donc, c'est une façon rapide de donner du contenu à nos auditeurs qui veulent qu'on leur donne du contenu parce qu'ils sont des auditeurs puis audites.
Merci de nous aimer comme ça.
Mais ça vous permet aussi.
C'est un bon complément à notre podcast mensuel.
Et ça permet à vous aussi, les auditeurs, d'ajouter votre grain de sel à notre podcast et nous poser des questions via le chat Ustream.
Moi, je suis sûr que la vraie raison.
Twitter.
Je suis sûr que la vraie raison, c'est juste parce qu'on s'ennuie entre nous autres puis on n'est pas capable de ne pas se parler plus que 15 secondes. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi c'est moi qui est. Au micro-chef ce soir.
Mais oui, où est notre Lynn habituelle?
Elle est morte. Non!
Non, t'es horrible!
Mais non, c'est pas vrai. Lynn, comme vous, certains d'entre vous le savez, ça chier. En tout cas, voilà. Lynn est enceinte. Et puis, ce soir n'est pas une très bonne soirée question santé, question bonheur. Alors, elle file so-so, comme on peut dire. Et puis, elle m'a dit, « Hey, là, c'est toi qui anime à soir, je m'en vais. »
Ouais, fait que tu dis pas non à une femme enceinte, tu pognes le micro, puis voilà.
Aussi bas, là. Je ferais des acrobaties pour une femme enceinte. Question de survivre.
C'est cute.
Ah,
Alors,
c'est ça. Fait que bonsoir, on est là. On aimerait vraiment que vous participiez avec nous via le chat. Aussi via Twitter. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de lire vos questions et d'y répondre.
Oui, je suis là. Utilisez le hashtag Geekbécois, c'est ça.
Oui, voilà. Ben, c'est ça. Parlez donc tout en même temps.
OK, 1, 2, 3. Hashtag Geekbécois.
Ah,
ben,
alors, Laurent va s'occuper de communiquer avec vous sur Twitter avec le hashtag Geekbécois. Je pense qu'on a Bruno sur Facebook.
Oui. Bon, on m'avait pas informé avant, mais oui, je vais être sur Facebook à répondre à vos questions.
T'es tellement multitasking, là, c'est pas grave.
Mais, effectivement.
Fait que, en tout cas, inquiétez-vous pas si vous nous posez vos questions sur Facebook. On va s'occuper de les lire et d'y répondre. Alors, on a quelques petits topics ce soir qu'on aimerait jaser avec vous. Et puis, j'aimerais qu'on commence avec celui de Laurent.
Déjà?
OK. Retourne te coucher.
Oui, c'est bon.
Alors, Laurent, cette semaine, sur le site de Geekbécois, tu nous as écrit un billet sur les rumeurs et l'avenir d'un iPhone 5 prochain.
Ben oui, parce que dans le fond, comme à chaque année, on a notre droit à notre nouveau bonbon, ceux qui aiment les téléphones d'Apple, ben on n'en a pas eu en juin. On a été laissé pour compte.
Chou!
Ouais. Mais là, c'est maintenant. Ça a été officiellement annoncé d'ailleurs cette semaine. Le 4 octobre, c'est l'annonce qui sera pour la première fois par le remplaçant de Steve Jobs. On va voir comment c'est.
Ça
va sûrement, ça va sûrement être la même chose. Là.
Monsieur Cook.
Oui, Tim. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce qui est intéressant, ce qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on va avoir un iPhone 5, un vrai, c'est-à-dire un upgrade majeur sur celui qu'on a déjà, ou est-ce qu'on va se faire du réchauffé avec, comme d'autres le pensent plutôt, un 4S qui serait soit une petite mise à niveau, légèrement plus rapide, légèrement plus performant, ou légèrement redésigné visuellement, mais rien de majeur, ou même encore, il y en a beaucoup qui pensent qu'on va probablement avoir droit à un appareil à bas prix. Parce que c'est un marché que Apple n'a absolument pas. Les téléphones qui viennent soit gratuitement avec les abonnements ou qui sont disponibles pour quelques centaines de dollars seulement sans abonnement ou pour des téléphones à la carte. C'est quelque chose de complètement étranger au monde d'Apple, à part dans l'usager. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça la grande annonce d'Apple, un changement stratégique de quel marché qu'ils visent avec leurs nouveaux appareils.
Ça me surprendrait, moi, que Apple décide de faire des formats à prix moindre, c'est mon opinion. Parce
oui,
que,
non, moi, je suis tout à fait d'accord.
Parce c'est... que Apple ont déjà essayé de faire ça avec les MacBooks en bas de 1000$ et ils ont carrément enlevé ça pour mettre des MacBooks au-dessus de 1000$. Donc, je vois pas qu'ils feraient encore volte-face au niveau de ça, surtout que même si Apple vend en ce moment leur marché ralentisse, étant donné que Android et autres téléphones étendent leurs tentacules un peu partout dans leur marché. On s'entend que c'est quand même le deuxième ou troisième dans certains pays qui vend le plus de téléphones. Et on s'entend, quand on parle d'Android en général, c'est plusieurs téléphones en même temps. Donc, c'est pas la même compagnie qui ramasse l'argent, mais c'est bien Apple qui ramasse tout cet argent-là pour faire d'autres téléphones. Donc, c'est une marque de luxe de base, Apple. Je vois pas comment ils pourraient changer cette stratégie-là d'un autre côté.
Ce serait difficile à faire. Mais d'un autre côté, si on regarde les iPods, ça a baissé beaucoup au fil des années, au point que les petits, là, je parle avant les Touch, là, mais les petits iPods étaient rendus à des prix très compétitifs par rapport aux autres manufacturiers qui essayaient juste d'en faire un qui marchait aussi bien. Fait qu'après une couple d'années de produits matures, peut-être qu'Apple pourrait dire on est capable d'en sortir un qui va être à moindre prix, mais qui ne sera pas cheap, là, qui va juste être un peu moins que le produit hot de l'heure.
Un retour sur le...
Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être continuer de viser juste dans le haut de gamme tout le temps puis de ne pas aller s'aventurer là-dedans. Ce serait pas fou parce que c'est un gros marché. Ils sont en train de se faire rentrer dedans par Android dans ce marché-là. Effectivement, il y en pleut des téléphones en bas de leur prix des iPhones, puis l'explosion du marché d'Android, à l'exception de certains appareils haut de gamme que certains manufacturiers font, comme Samsung et compagnie, c'est surtout parce qu'ils sont pas chers, puis sont vraiment bons. Là. Android, c'est un bon système. Si Apple fait rien, il y a des chances qu'ils se fassent manger tout rond dans les années à venir.
Ben, c'est officiel qu'ils resteront pas là à regarder le marché rouler, puis on va essayer de développer telle chose. Selon moi, le move dont certains parlent de faire une version peut-être un peu inférieure à la grosse version, c'est sûrement une super bonne décision. Par contre, est-ce que cette version-là se vendrait autant qu'un iPhone 5, mettons?
C'est dur à dire. Hein? Majorité du monde, il y en a beaucoup qui changent pour le nouvel appareil parce qu'ils en ont eu un autre avant. C'est pas tant des nouveaux acheteurs que des acheteurs à répétition. Fait que de sortir un nouvel appareil à bas prix, toutes ces personnes-là ne désireraient pas changer pour leur appareil, pour le nouveau. Moi-même, je regarderais, moi j'ai un 4, puis je ferais comme, ben là, le nouveau, aucun intérêt, je vais garder mon 4.
Mais d'après moi, la bonne mise au jeu qu'ils pourraient faire pour mettre vraiment quelque chose sur table, c'est faire comme Samsung, faire une grosse annonce pour leur téléphone de l'heure. Ils ont fait une grosse annonce pour le Samsung Galaxy S2, mais sans l'annoncer, mais on s'entend que quand Apple lâche un pet, on le sait dans les médias.
Bon.
Donc,
S'ils veulent qu'on le sache, parce que...
Non.
On s'en serait jamais sorti avec
sont
un
pas pot... intéressants, c'est un exemple. Mais ce que je voudrais faire allusion, c'est que Samsung annonce tout le temps leurs gros produits, mais on s'entend que Samsung est la marque la plus vendue au Canada en ce moment au niveau des téléphones cellulaires, et pourtant, ce qu'on voit dans les médias, c'est surtout Galaxy S2, Galaxy S2, Galaxy S2, Galaxy S2.
Ouais, c'est la marque Galaxy que les gens retiennent plutôt que la marque Samsung.
Ouais, c'est vrai ça.
C'est vrai, mais...
Je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'appareils Android. Des fois, la marque de l'appareil même est plus forte que le manufacturier qui est derrière.
Mais c'est sûr, mais ce que je veux apporter à ça, c'est que Apple, leur avantage, c'est qu'ils pourraient sortir un format à plus bas prix en même temps qu'un format, tu sais, admettons un iPhone 5, mais ils pourraient sortir un iPhone 4S. Qui coûterait moins cher que l'iPhone 5 et donnerait plus d'options aux nouveaux consommateurs d'embarquer dans la machine à Apple et de donner le nonos que les utilisateurs, les j'appelle le culte d'Apple, veulent.
C'est exactement ce qu'ils avaient fait avec le Mac Mini. Le Mac Mini était un entrée de gamme et ça a permis à beaucoup de gens de découvrir Apple. Et beaucoup de gens ensuite y sont restés, mais c'était le même principe. Et il a très bien marché, le Mac Mini.
Mm-hmm.
On vous vend une maison, on vous fait rentrer par le sol, puis on espère que vous achetiez les deux autres étages, autrement dit.
C'est ça.
Exactement. Et je veux dire, il y a bien des gens... Là, en ce moment, c'est peut-être l'effet inverse qui arrive, c'est que les gens retournent vers le PC, étant donné que ben, là, je compare des pommes et des oranges entre le cellulaire et les ordinateurs, parce que c'est pas pantoute la même chose, même si ce que Apple essaie de me faire passer, que c'est iOS va être la même chose bientôt. Des gros doutes là-dessus. Laissez-moi vous le dire, mais ce que moi j'aimerais voir, c'est qu'ils puissent avoir une entrée de gamme chez Apple, parce qu'en ce moment, les gens disent j'aimerais ça avoir un téléphone à Apple, mais ça coûte trop cher, ou c'est lié à un contrat de 3 ans qui ne m'intéresse pas nécessairement.
Mm-hmm. Mais c'est ça, à la base, la barrière à l'entrée pour les consommateurs, puis c'est ça depuis des années, ça a tout le temps été le prix très cher, avouons-le, de l'achat initial, que ce soit par plusieurs centaines de dollars l'appareil, plus un contrat long avec data puis qui coûte cher. Je veux dire, moi, c'est ça, là, c'est un contrat de 3 ans que je renouvelle. C'est sûr que moi, j'aurais un cellulaire anyway. Fait que pour moi, renouveler mon contrat avec ou sans nouveau téléphone, ça revient au même. Mais c'est pas tout le monde qui fait ce calcul-là. Il y en a beaucoup qui, l'appareil est peut-être pas aussi nécessaire. Donc, ils feraient comme, ben, moi, j'en aurais pas si ce n'était que X ou Y. Fait que je vois pas pourquoi je paierais autant. Je veux dire, si on le calcule, c'est au bout de 3 ans, c'est beaucoup d'argent, là, pour un cellulaire. Fait.
Ouais.
C'est clair. Et je veux dire, en même temps, un téléphone à Apple, oui, la marque est incroyable, mais je veux dire, oui, ils ont une justification pour le prix, mais de plus en plus, si on prend le iPhone 4 en ce moment, qui est le téléphone à Apple, et qu'on le compare au nouveau téléphone qui sort, je m'excuse, il est en train de manger une volée, pardonnez-moi le québéquisme, mais il est en train de se faire casser la gueule solide par les autres téléphones qui accotent son prix. Et que Apple refuse de couper le prix du téléphone parce que c'est son téléphone, c'est son porte-étendard en ce moment.
Ouais. Ben, comme présentement sur le chat, on nous demande s'il y a des innovations pour le iPhone 5. À date, on n'a rien de confirmé. C'est de la spéculation pour tous, mais rien d'impressionnant à date, je vais vous dire. Tout ce qu'on a eu, ce serait possiblement une caméra un peu meilleure, 8 mégapixels, possiblement un écran un peu plus large, peut-être jusqu'aux limites de l'écran, aux limites du boîtier plutôt qu'avec des bordures, un peu plus élégant, un peu plus grand, mais rien de catastrophique. À part ça, quoi, une puce un peu plus vite, le A5, peut-être cellulaire, la nouvelle génération de sans fil, mais encore là, il n'y a pas grand monde au Canada qui l'ont, puis c'est pas tellement plus vite. Je veux dire, l'email puis le web, ça l'autre quand même à une vitesse très rapide avec les appareils 3G présentement. Fait qu'il n'y a comme rien présentement de ce qu'on a comme information dans les rumeurs qui serait un changement majeur pour le 5. Contrairement au 4, qui était quand même assez majeur avec le nouveau type d'écran, la nouvelle résolution de l'écran, le nouveau boîtier en verre, c'est une différence très, très, très importante par rapport au 3 puis au 3G avant.
L'écran de Retina aussi.
Ben c'est ça, la résolution de l'écran.
Ouais, ouais.
Mais par exemple, selon moi, ce qui va arriver, c'est étant donné que Apple sort toujours leur téléphone avec OTT, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas de LTE tout de suite en partant, tandis que Verizon est en train d'installer leur réseau LTE à la grandeur. Puis ça va faire mal à Apple sur la longue run, parce que les businessmen et on va s'entendre, les junkies de techno comme nous ont besoin d'avoir nécessairement le LTE. Comme Rogers va sortir le LTE à Montréal en octobre avec un Samsung Galaxy S2 version LTE. Moi, je regarde ce téléphone-là. Pourquoi? Pour tout simplement parce que la vitesse du réseau va être plus rapide que mon 3G, mais je ne sais pas à quel point, j'ai jamais testé LTE. Mais le fait que le iPhone ne supportera pas le dernier réseau à la fine pointe, tandis que Apple est toujours à la fine pointe de la technologie, ouais. Les clients sont toujours habitués à ça, ça serait une grande déception d'avoir attendu environ 1 an quand Apple sortait des téléphones à tous les années pour juste se faire dire « Désolé, on va... peut-être même pas supporter, peut-être même pas supporter le 4G.
Ouais, mais je vais vous dire une affaire, par exemple, c'est que moi, de mon côté, là, le 3G, là, c'est très rare que je vais même plafonner les vitesses que le 3G est capable d'offrir. Fait que, qu'on me promette une nouvelle technologie qui est 10 fois plus rapide, ça va donner quoi si la majorité de mes téléchargements sont pas plus vite de toute façon parce que le signal n'est pas optimal, le site sur lequel je télécharge est occupé, le réseau de mon fournisseur de cellulaire, ben, il est juste pas capable de suivre. T'sais, oui, c'est le fun de la nouvelle tech, mais il faut pouvoir s'en servir.
Ben, c'est sûr, mais quand je paye un téléphone qui est environ pas loin de 500$, j'aimerais ça avoir la dernière technologie dedans et pas juste des promesses de magie.
Mais en as-tu vraiment besoin, par exemple?
Non, en parce ce moment, que... je pourrais te dire que, ben franchement, non, mais quand on passe d'un téléphone qu'on dit « feature phone » et que t'as... parce que là, maintenant, avec Apple, le problème, c'est que tu as le choix. Les autres téléphones, oui, iOS n'est pas supporté, mais si tu regardes ça, tu as quand même le choix. Tu peux quand même prendre un téléphone 3GS, puis bientôt, tu vas pouvoir prendre un iPhone 4, si, admettons, ça devient l'iPhone 5. Et tu vas l'avoir à moins cher, et tu vas avoir quand même une technologie de manière abordable si tu passes d'un téléphone, en bon jargon, on appelle ça un dumb phone, tu sais, un téléphone Nokia ou un vieux flip, ou mettons ton Motorola Razr a rendu l'âme. Dieu sait que c'est pas tuable, ces machines-là.
J'en ai brisé un, mais de force.
Ouais, mais toi, t'es un ninja, donc, Laurent, c'est pas pareil.
Dieu sait que c'est pas tuable. Où je travaille, on l'utilise pour la Webmastery, justement, parce que c'est pas tuable. Mais je veux dire, si je passe de mon Razr à un téléphone qui va me coûter potentiellement juste 50$, je trouve que j'irais plus vers le 50$ plus que le téléphone qui va me coûter environ 200$ et qui a pas vraiment plus que le téléphone à 50$. Ou qui offre pas vraiment plus que tous les autres téléphones intelligents. Je nomme un autre téléphone, mettons un téléphone LG ou un téléphone Samsung. Donc, c'est vraiment... J'espère qu'Apple réalise que leur espèce de bulle de distorsion tiendra pas la route longtemps. Faut qu'ils commencent à écouter le marché et pas juste se dire « on est Apple, puis juste parce qu'on on étampe une pomme sur un téléphone, ça va vendre. »
Entre vous puis moi, là, est-ce que... Dites-moi si j'ai tort, là. Si Apple sort vraiment un iPhone 5, s'il annonce vraiment c'est le 4 octobre, le keynote?
Oui, oui.
Bon, s'il annonce vraiment ça, est-ce qu'entre vous puis moi, ça sera pas le meilleur moment du monde de s'acheter un téléphone super abordable? Parce qu'on s'entend que les fans, les vrais fans d'Apple, vont vouloir pitcher leur iPhone 4 par la fenêtre pour se garocher sur un 5. C'est inconditionnel, là.
Ouais, ben tu vois, à chaque nouvel appareil, on dit ça, puis règle générale... parce que j'ai plusieurs amis qui font le switch en vendant l'appareil précédent à chaque fois qu'il y a un changement. La valeur usagée est très haute, surprenamment haute.
Ouais, mais
que l'appareil est débarré, là, c'est wouh!
Il y a des gens qui ont eu l'appareil, mettons, pour 200$ avec un contrat avec un fournisseur. Eux autres, je me sentirais mal à leur place de le vendre à 400-500$ en essayant de faire à croire qu'ils l'ont payé 600$ au Apple Store, là.
Mais c'est clair.
Mais tu sais, la plupart des gens vont essayer de vendre ça pour un prix abordable. Question justement d'avoir un cash down à mettre sur le 5. Mais moi, là, si j'achète un petit téléphone usagé là, je veux bien croire que ça fait peut-être un an et demi qu'il est sorti, mais jamais la batterie est morte. Là. À moins que ce téléphone-là ait vraiment été malmené, là, je me retrouve avec un iPhone 4 qui a justement qui roule sur le 3G puis qui roule très bien, qui répond super bien au Wi-Fi, qui a des applications satellites que moi j'utilise beaucoup. Donc, moi, je serais amplement satisfait. J'ai Lynn ici qui roule iOS 5 en bêta, en développeur, dans le fond, là, sur son appareil. Puis, écoute, ça roule super bien. Fait que j'ai quoi de différence à part peut-être le look? Puis, bon, évidemment, si la chip A5 est dedans en plus, bon, c'est sûr que.
Ouais, ben encore là, le 4, je disais, moi, le mien, là, c'est tout c'est le temps monstre, vite. Là. Il y a rarement des problèmes de performance. Là.
C'est un monstre, cet appareil-là. Là.
Juste pour rajouter, on parlait des prix. Je suis en ce moment sur le site de eBay Canada et un iPhone 3GS, et je dis bien 3GS, moyenne à environ 200$ débarré. C'est cher, je trouve, pour un téléphone débarré quand tu peux aller tout simplement chez Bell ou chez Rogers pour avoir un téléphone qui est plus performant que ça pour moins cher. Puis...
Oui, mais les gens ne veulent pas s'engager 3 ans.
Moi, si je prends un forfait à la carte, là, je peux m'en sortir pour 10$ par mois. J'ai un téléphone, je peux faire quelques appels. Si je veux un iPhone, je suis obligé de prendre un gros forfait.
Exactement, c'est 3 ans.
Reste que je trouve que pour un téléphone, que ça va faire facilement 2 ans et demi, et on s'entend que la technologie est extrêmement obsolète rendue là, 200$, c'est peut-être beaucoup demandé. Je veux dire, je prendrais pas l'exemple des calculatrices TI parce que ça fait pas de sens, là. Mais je trouve quand même que le prix est relativement haut pour un téléphone qui est relativement vieux.
Il est vieux, mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il fait bien la job? Je veux dire, oui, le 3G, c'est presque plus utilisable aujourd'hui. Mais à partir du 3GS, encore aujourd'hui, très performant, la mémoire en masse, une bonne batterie. Le 4, très performant, bonne batterie. C'est pas comme si, après 2-3 ans, l'appareil était comme, bon, ben là, inutile, je fais plus rien avec, ça vaut plus rien.
Et on s'entend que les prix que j'ai regardés, ils étaient neufs. Les usagers, j'imagine que ça doit se détailler environ 100$.
Oui, moindrement qu'il est un peu graffiné, c'est en bas de 100$. Imagine, pour en bas de 100$, tu as un iPhone 3GS, puis que ça te coûte pratiquement rien par mois parce que tu as un forfait à la carte, parce que tu l'utilises presque pas de toute façon, c'est un téléphone pour les urgences, ben c'est un méchant bon deal parce que dans tes poches, tu as un iPod Touch tout le temps.
Jean-François, es-tu là?
Bien sûr!
Ah bon, hey, salut! On t'entendait pas beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je regarde vos commentaires sur Twitter ou Facebook. Là, c'est pas la cohue présentement, mais j'aime
l'écrire. Ils veulent voir la face.
Oui, mais ça fait deux ans que j'ai mon 3GS. Il fonctionne encore très bien, là, même avec un iPhone 5. Moi, je vais attendre peut-être même au 6. Là.
Oh là là!
S'il y en a un, là. Moi, il fonctionne très bien. Pourquoi je gaspillerais de l'argent ou prolonger mon contrat de 3 ans pour un autre cellulaire quand le mien fonctionne très
bien?
C'est
ça. C'est que tu n'es pas nécessairement porté vers la surconsommation pour rien. Y a bien des gens qui suivent ton exemple. Là. Moi, je suis fier de ça. Plutôt que de vraiment se garrocher sur le nouvel appareil qui sort, moi, j'ai acheté le iPhone de Lynn et j'aimerais ça ne pas avoir à lui en acheter un autre tout de suite. Mettons. Puis, une petite question comme ça, je suis peut-être dans le tort, là. Avez-vous remarqué que dès qu'il y a un nouveau modèle d'iPhone qui sort, l'ancien modèle d'iPhone devient pratiquement le modèle du iPod Touch?
Oui.
Non, effectivement.
Si je m'achète un iPod Touch 4 puis qu'il a l'air de iPhone 4, moi, je suis aux anges. Hein?
Ah, c'est clair. Je veux dire, le design me fit parfaitement dans une poche. Puis, c'est pas... Je veux dire, ça...
Ça a l'air tough.
Échappe-le pas à terre. S'il utilise le boîtier en verre, échappe-le pas à terre.
On le verra bien lorsqu'ils vont nous annoncer le prochain produit.
La semaine prochaine, on va peut-être tout dire « Oh, hey, là, j'en veux un, t'es 40. »
Et oui.
Oh, je doute, là, c'est Apple, mais...
Ah, check les.
C'est moi.
Pas vendu. Alors, voilà. Fait que merci pour la discussion, chers amis. On va passer à un autre sujet. Je m'aime. Ensuite... Un autre sujet.
notre animateur, qu'est-ce qu'on l'aime parce qu'il peut nous raccrocher si on fait pas son affaire?
Et ben, c'est ça.
J'ai comme il y a le droit power, de modération.
J'ai du power, mais je le contrôle pas. Faites attention.
Ah.
On pourrait passer peut-être à Alexandra qui pourrait nous parler de sa petite aventure au cinéma.
Oui. Lundi soir, je suis allée voir l'avant-première de Breakaway à la MC Forum.
Oui.
Qui est une comédie canadienne, inspiration bollywoodienne, donc des acteurs indiens.
Oh, de la musique, de la danse, non?
La musique, la danse, les costumes, le folklore, la totale. C'est avec Russell Peters et Rob Lowe. Donc, ça se passe à Toronto, en fait, dans une famille indienne sikh, avec les turbans et tout. Mmh. Et le fils aîné est passionné de hockey. Et il veut devenir professionnel. Mais le problème culturel avec le turban, tout ça, le turban et le casque, ça
ne
va pas très bien ensemble.
Ça prendrait tout un casque, oui.
Donc, il essaye de regrouper ses amis sikhs et ils forment tous ensemble une équipe de hockey. Donc, voilà, l'histoire, c'est ça. Et puis, on a l'opposition du père qui veut que son fils reprenne... Le commerce familial, etc. Donc, voilà. Plusieurs personnages secondaires, pas mal drôles.
Ah,
et puis, une belle interprétation.
Moi, excuse-moi de te couper, c'est parce que j'ai vu le preview au cinéma avec Lynn, et puis j'étais « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis, dès que j'ai vu Russell Peters dans le preview, je me suis dit « Oh my God, il faut absolument que je voie ça. » C'était officiel que ce serait pas un film sérieux, première des choses, parce que Russell Peters, qui est un humoriste canadien, un humoriste anglophone canadien, j'ai vu quelques spectacles de ce mec, c'est un fou.
Ben, il y a une phase de clown aussi.
Oui, oui, ben ça aide. Ça aide.
Ben là, il joue vraiment le méchant dans ce film.
Ah ouais?
Ah ouais.
C'est drôle. C'est, le rôle de méchant, je l'aurais donné à Rob Lowe, peut-être à cause de Wayne's World. Là.
Ouais,
son rôle
clair.
Dans Wayne's World.
Contre, c'est vraiment un film à petit budget. Là. On sent qu'ils n'ont pas mis les gros moyens là-dedans.
Ouais, ça, c'est malédiction des films canadiens. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, ils ont pris un Bandit Like Beckham. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Oui, avec.
Peut-être 10 ans, là, maintenant. Ben, c'est le même principe. Puis. J'ai regardé plusieurs critiques, puis c'est souvent ce qui revient. Là, ils ont repris le même film, puis ils ont fait ça avec le hockey. C'est un petit peu dommage.
Surtout que dans Bandit Like Beckham aussi, l'actrice principale était d'origine indienne aussi, donc ça doit être une des grosses ressemblances aussi.
Ouais, c'est clair. Mais bon, je me dis, c'est un bon film pour un dimanche après-midi quand il pleut. Je trouve que c'est l'idéal. Mais.
Ça ne sera pas le grand succès de l'année non plus.
Non, c'est ça.
Ouais, mais les Bollywood.
C'est ça.
C'est tellement rigolo. Je veux dire, il faut prendre ça. C'est au deuxième degré. Là. Tout le long du film, tout est plus grand, tout est plus grandiose, tout est extraordinaire. Puis les musiques partout. À tout moment, on ne sait jamais. Hop! Une chanson ici, puis là, tout le monde danse ensemble. Puis on était ennemis le 2 secondes. Mais maintenant, on s'aime.
C'est ridicule. Et je veux dire, au niveau des Bollywood, je pense une des meilleures parodies, ça a été The Guild qui l'a fait avec la chanson Game On, que c'était vraiment aïe aïe, là, c'était bonjour. Ça paraît que The Guild a grandi de leur petit budget fond de poche à Microsoft nous paye tout, mais je veux dire, leur parodie était vraiment bien. Ou quand tu regardes, je pense, il y a l'extrait que je pense pas mal tout le monde a vu du gars qui fait carrément un sideway, il se met sur le côté avec son cheval, passe en dessous d'un truck.
Ah, ben oui.
Fantastique.
Ah oui, ça c'est fou, ça c'est classique.
Ou la fameuse scène finale d'un film d'action qui dure à peu près 15 minutes avec le gars qui se multiplie en robot puis qui devient un robot de robot constitué de plus de robots puis qui devient un robot géant. Puis c'est juste comme le complètement absurde. Mais c'est génial, j'adore ça.
Mais un dernier exemple, ils ont essayé de faire un film comme La Matrice, mais le gars, à place de bouger ultra vite et de manipuler le temps, il peut juste se multiplier d'une manière absolument ridicule. Fait qu'il a fait une méga boule puis il a écrasé le méchant de la fin avec.
Ben, c'est celui-là, c'est celui-là.
Ah, OK.
Mais tu sais, quand tu peux te permettre d'exagérer, pourquoi pas le faire?
Ça fait pas mal.
Surtout quand c'est un film que tu sais que probablement tu seras jamais nominé aux Oscars ou quoi que ce soit. Aussi bien que t'as lâché lousse. Moi, le peu de films de Bollywood que j'ai vu, je me suis toujours ramassé à la fin du film avec un sourire.
Ouais.
Moi, c'était causé un peu par l'alcool. Là.
Mais peu importe l'histoire, tu sais que ça va toujours finir. Une petite danse, 40 personnes en triangle, on danse. On fait des têtes de chevreuil avec nos doigts, d'ailleurs. Vous remarquez ça.
Au moment le plus dramatique, le gars, il est veuf et d'un coup, il se met à danser, chanter, les écharpes qui volent et tout. Donc c'est vraiment le fun.
Tu fais ça dans la vie, puis t'es faite.
C'est ça.
tu te fais traiter de tous les noms. Ah, pour faire bref, t'as aimé ça, Alexandra, quand même?
Comme je te dis, pour un dimanche après-midi, quand il pleut, c'est un très, très bon film.
Ah bon.
Si tu cherches plus compliqué, il ne faut pas aller voir celui-là.
Ouais, je suis pas très mental élevé pour mes films, fait que ça pourrait me satisfaire. As-tu d'autres films
dans le fond,
en
vue? C'est comme un film léger de Hollywood, mais plus drôle au lieu d'essayer d'être sérieux puis de pas light finalement.
C'est ça.
Ouais. C'est et avec moins de budget.
Mais là, avec moins de budget, c'est en train de me dire qu'il joue au hockey avec des balais, je décroche. As-tu d'autres films en vue, Alexandra?
Je vais voir le George Clooney la semaine prochaine, l'avant-première. Je sais plus le nom. Mais c'est ça.
Bon, ben c'est merveilleux. On va faire un peu de recherche puis on revient là-dessus. Ah, ben merci beaucoup.
La leçon du soir.
Oui.
Quand vous écoutez un film de Bollywood, votre dépression s'en va assez vite.
Ah, c'est officiel. C'est officiel. Je me souviens de Slumdog Millionaire qui en était plus ou moins un. Mais la danse du générique à la fin là, dans la station de métro.
C'est tellement bon.
Et voilà. J'attendais Jean-François.
C'est pas de la musique de Bollywood, mais bien du Pussycat Dolls.
Mais oui.
Ouais, mais avec une base indienne. Yeah. Alors, OK, c'est assez.
Ça, c'est une passe barrette, là, mais c'est correct.
Oui, c'est ça.
Hey, je tiens à souligner que mes deux dernières nuits ont été assez courtes, alors ça se peut que je déparle et que je dise n'importe quoi. Alors, avant de m'engouffrer plus loin, on pourrait passer peut-être à Bruno, qui a quelque chose de rigolo à nous parler.
Effectivement, ben rigolo, ça dépend pour qui.
Je ne voulais pas dire pathétique, fait que vas-y.
Ouais, pathétique. Cette semaine, Activision a annoncé qu'il ferait une promotion avec Pepsi. Donc, on s'entend déjà « Bonjour les calories ». Donc, ce qui arrive tout simplement, c'est qu'avec Modern Warfare 3, ce qui est vraiment fantastique, c'est si vous achetez des produits Mountain Dew, c'est juste aux États-Unis en passant, si vous achetez des produits Mountain Dew avec le label spécial Modern Warfare, vous pouvez gagner du temps ou vous pouvez avoir le double d'expérience. Mmh. Oh mon Dieu, ça veut dire que je peux tout de suite atteindre mon niveau maximum, avoir tous mes perks rapidement tout en me bourrant de Pepsi. Combien
Et
ça
le
part?
Double de calories.
Et combien vous pensez? Honnêtement, là, j'ai la charte des prix. Je vais demander à l'audience. Combien vous pensez, comment vous pensez que le système marche? Est-ce qu'on vous donne des points d'expérience quand vous mangez un paquet de chips? Ou est-ce qu'on vous donne du temps? Est-ce qu'on vous donne des chapeaux, des armes, des affaires?
Je pense que t'as un code, son personnage virtuel, il peut comme manger des chips dans le jeu.
C'est ça, j'aimerais ça savoir avec l'audience.
En grosse mission stealth dans l'ombre, un gros crunch de Doritos.
Selon vous, chers amis de l'audience, comment vous pensez que le système marche? Est-ce que c'est avec des points? Est-ce que c'est avec autre chose? J'aimerais ça le savoir. Donc, est-ce qu'on a des réponses?
Faut pas t'oublier
qu'il y a un délai de quelques secondes.
Donc, non, ça a l'air tranquille.
Mais moi, ma question, c'est surtout, est-ce que c'est ciblé ailleurs qu'aux États-Unis? Sans
non,
vouloir être
non,
méchant.
C'est surtout aux États-Unis parce que la plus grande base des joueurs de Call of Duty, surprise, surprise, est aux États-Unis. Il y en a beaucoup à travers le monde. Les deux grandes bases sont les États-Unis et la Russie.
Okay.
Est-ce qu'on est surpris rendu là? Je pense pas. C'est pas mal les deux gros marchés pour les first-person shooters. Ce que j'aimerais vous apporter au niveau de la... Au niveau, c'est comment le plan marche. Quand vous achetez un Mountain Dew ou des Doritos, voici ce qui arrive. Pour un Mountain Dew de 20 onces, parce que c'est on part tout de suite aux 600 ml, tout de suite en partant. Donc, aux 600 ml, par 600 ml, vous gagnez 15 minutes de double XP. Donc, c'est par minute. Pour ensuite, on sort tout de suite avec la boîte de canettes. Pour 12 canettes, vous gagnez 45 minutes de double XP. Et attendez. Quand vous allez, mettons, à la cafétéria ou à d'autres endroits où on vend des produits Pepsi de type Mountain Dew, si vous avez la chance d'aller dans un restaurant où ils vendent des petits verres en carton avec Modern Warfare, ben, tout le truc... C'est 15 minutes par verre. Donc, vous pouvez voler genre un set de verre et ça va faire le truc.
Moi, j'ai une question.
Oui. J'ai une question.
Est-ce que je peux aller chez Costco puis acheter comme 3-4 jours de double XP?
Oui, absolument. Parce que de toute façon, c'est... Mais j'ai pas fini, je veux juste finir avec la charte. Si vous allez chez Walmart exclusif et que vous voulez le méga XP, comme ils appellent, c'est... Pour 20, pour un paquet de 20, puis on s'entend, c'est 2600 millilitres. Un paquet de 20, vous gagnez 90 minutes de double XP. Est-ce que, on va s'entendre là-dessus, vous gagnez 90 minutes d'XP, mais on va s'entendre sur quelque chose. Combien de livres vous allez gagner à la fin de la promotion? Elle ne sait pas. Mais c'est pas tout, les amis. Vous achetez des Doritos avec ça.
But wait, there's more.
Pour 15 fantastique minute de plus, vous pouvez acheter un sac de Doritos avec ça. Et en plus, si vous avez des cartes de combat qui sont dans les sacs de Doritos, vous gagnez 15 minutes. Si vous gagnez un set, parce que c'est comme si on jouerait à comme si on jouerait à risque, donc si vous avez le set des trois soldats, vous gagnez 90 minutes, mais pour avoir un set, combien de temps pensez-vous que ça... Combien de sacs de chips ça prend? Beaucoup.
Ça change quoi tout ça, au juste, là? Je veux dire, que quelqu'un décide d'acheter des produits, puis d'avoir des codes, puis de faire des bonus dans le jeu, là, ben tant mieux pour lui. Moi, ça change rien à moi.
Honnêtement, moi, chaque fois que je vois mettons, sur les boissons gazeuses ou sur les chips, là, des codes, allez entrer votre NIP et courez la chance de... Non, je décroche. Il aurait beau faire tirer une maison, juste mon Dieu, je ne veux pas utiliser le terme anglais, le hassle, juste le trouble.
Le trouble.
Merci. Le trouble d'aller sur Internet, puis de là, m'abonner, parce que souvent, c'est
oui,
ces
oui,
endroits-là.
Oui, c'est ça, il faut s'abonner.
Tu t'abonnes avec ton email. Là. Ah, écoute, ça me
mais c'est là la beauté de la chose, c'est que c'est pas dans notre culture, en tant que bon Québécois, d'avoir ça, parce que nous autres, c'est comme, ah, une promotion, c'est qu'on gagne pas vraiment grand-chose. Aux États-Unis, par exemple, c'est totalement une autre mentalité. Ouais, et c'est pour ça que c'est là. C'est, imagine la personne qui est déjà fidélisée à Mountain Dew et à Modern Warfare, mais qui ne voit pas le lien à part le fait qu'il cale son 2 litres et qu'il paye... Et là, je m'en vais dans les stéréotypes et je m'en excuse. Le gars qui pèse 400 livres, qui boit son Mountain Dew et qui torche les petits-enfants de 13 ans à Modern Warfare sur son Xbox... Exactement. Donc, c'est, si l'audience peut regarder la belle image que Steve a sortie, c'est
tout.
À peu près ça. Donc, imaginez 30 secondes la personne qui va acheter genre ses canettes ou ses 600 ml de Mountain Dew caféiné, parce qu'aux États-Unis, il y a de la caféine dedans. Ben, cette personne-là va bénéficier parce qu'elle va gagner des points, puis ça va l'engager à aller chercher plus de produits plus rapidement. Pourquoi? Ça lui donne de la double XP puis il peut monter de niveau rapidement.
Il y a plein de jeux où on peut acheter des bonus puis devenir meilleur. Ça appartient à chacun de décider de quelle façon il veut devenir bon au jeu, soit en acquérant de la vraie expérience et en devenant vraiment bon, ou en achetant un passe-droit. Je veux dire, il y a du monde qui se vend des comptes de World of Warcraft sur eBay qui sont déjà tous montés, t'es level 12 000 puis pif paf, tu casses des gueules. Tant mieux si lui a son fun comme ça.
Tu sais, moi, je trouve que c'est même ni à l'avantage de Pepsi et ses produits Pepsi, ni à l'avantage de Modern Warfare, parce que Modern Warfare, en ce moment, ils ont une réputation assez chambranlante, là. Comme Bruno disait dans le dernier podcast, c'est en train de devenir... comment tu disais ça?
C'est le NHL des jeux de...
C'est ça, exactement. Fait que... Puis t'es pas le seul à penser ça. Moi, je reste quand même fan de Call of Duty puis de Modern Warfare, là. Mais ils sont vraiment en train de jouer toutes leurs cartes, on dirait, tout éparpillé pour essayer de rester intéressant. Mais ça aide ni Modern Warfare, ni, selon moi, Pepsi, de s'associer à pratiquement n'importe quoi. Je veux dire, Pepsi, est-ce qu'ils ont besoin tant que ça de se montrer le nom un peu partout? C'est comme une des deux plus grandes boissons gazeuses, en tout cas en Amérique du Nord, selon moi. Coke étant probablement en première position. Mais
aux États-Unis, c'est Dr. Pepper.
Ah, le docteur du poivre.
À Pepsi.
Le docteur du poivre. Ouais, mais...
Je veux simplement vous dire que il y a beaucoup d'économistes aux États-Unis qui pensent exactement la même chose que vous. On s'entend, Activision, c'est pas la compagnie de jeux vidéo qui a vraiment besoin de ce genre de promotion-là pour vendre leurs jeux. On s'entend que le Call of Duty Black Ops, le dernier qui est sorti l'an passé, ouais. On pourrait l'appeler Call of Duty 2010, plus 2011, mais Call of Duty 2011, quand il est sorti... Mon Dieu, j'adore les appeler de même. Je pense que je vais les appeler de même à partir de maintenant. Ce qui arrive, c'est que... on s'entend, là. Il y a eu un party de promotion dans certains endroits, mais je veux dire, les préventes, les gens qui voulaient acheter le jeu, les gens qui se sont rués devant le magasin, ils n'ont pas eu besoin d'avoir des produits Pepsi dans leurs mains pour faire ça. Ils sont allés parce que le jeu, il l'aime. Puis je veux dire, quand NHL sort, on s'entend, il n'y a pas de gros party. Le monde l'achète. Puis je trouve que Call of Duty est rendu à ce point-là. Puis je trouve qu'à Activision, il met juste comme tellement une grosse... Comment je pourrais dire ça en français? Une grosse couche de grévé.
En profite.
C'est ça. Ils mettent une grosse couche de grévé sur un jeu de tir simplement parce que, écoute, on a de l'argent... puis on a besoin de plus parce qu'on est une compagnie, puis je veux dire, j'ai rien à plaindre contre ça, mais je veux dire, moi, c'est le concept de pourquoi tu veux associer, parce que regarde, moi, je suis un grand militant, je trouve que les jeux vidéo, c'est important dans la culture de, au moins, tu sais, toucher aux jeux vidéo au moins une fois dans ta vie, mais ce genre de campagne-là fait juste promouvoir à quel point, écoute, si tu joues à ce jeu-là, tu vas boire tu vas manger et boire de la malbouffe, puis écoute, là, tu vas juste jouer à des jeux de tir, puis tu vas juste comme boire, puis comme tu disais, Steve, ça va pas bénéficier aucun des deux, mais en même temps, c'est la cause des jeux vidéo en tant que tel qui va souffrir, parce qu'on s'entend que Call of Duty, c'est pas le jeu le plus créatif de la planète, c'est tu prends ton gun, tu vas tuer les ennemis, puis tu t'accomplis des objectifs.
OK, là, je vais donner un autre argument qui est bien intéressant à mettre en contexte avec le fait que c'est de ce dont on parlait à notre dernier podcast. C'était les revenus supplémentaires que les compagnies de jeux vidéo essaient d'obtenir dans le marché de l'usager. La prémisse de base est les jeux coûtent cher, on ne veut pas monter le prix de vente plus que ce qui est déjà rendu, donc on va chercher un petit peu ailleurs qui est le marché du online et du downloadable content via la revente des jeux. Fine. Là, on arrive avec une solution qui va donner du revenu à Activision pour le jeu, puis ce serait pas une bonne idée. Moi, je dis, let's go, lâchez-vous lousse, achetez toutes les bebelles puis les bonus que vous voulez, des t-shirts puis des verres puis whatever, un hamburger avec un gun dedans. Si ça fait en sorte que la compagnie fait de l'argent puis qu'elle peut continuer d'offrir ses produits puis peut-être de pas avoir augmenté le prix initial du jeu, moi, je suis pour ça. Je veux dire, le fait de décider de manger ou de boire quelque chose, c'est quand même une décision personnelle. Là. Il n'y a pas forcé dans la gueule,
non,
son docteur.
Absolument.
Ça. S'il veut
mais
manger,
attention.
Ben, il mange.
Ouais, mais des adolescents, là, ça pose plus le problème. Parce qu'il peut demander à maman de payer des Doritos ou du Pepsi.
Parce
et
qu'ils
puis...
veulent, no matter what. Puis c'est pas un adulte rapport qui va leur dire quoi faire. Fait qu'il y ait une promotion croisée ou qu'il n'y en a pas, s'ils veulent se bourrer à la face d'un chip, ils vont le faire. Puis si tu leur dis que c'est pas bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? En bouffer deux fois plus juste pour t'écœurer.
Non, c'est clair. Mais ce que je veux apporter avec cette promotion-là, je trouve que Activision n'a pas nécessairement fait un très bon choix. Je trouve, là, moi, ce que j'aurais trouvé vraiment le fun, c'est de créer de la marchandise sur le côté de Modern Warfare, comme un jeu de cartes, un trading card game de Modern Warfare ou un genre des affaires, un jeu de figurines, comme ils ont essayé de faire avec World of Warcraft. Et je veux dire, le jeu de cartes World of Warcraft marche très bien, que tu peux avoir des goodies in-game avec des cartes qui sont rares, mais pas nécessairement vendre ça avec de la bouffe, surtout de la malbouffe. Je veux dire, une autre affaire que je veux apporter avec ça, c'est qu'il y a une espèce de culture du gamer qui est installée autour de Call of Duty en général. Quand on parle de Call of Duty en général, on parle de gens qui vont dans des grands tournois, qui apportent leurs ordinateurs, qui, tu sais, je veux dire, ils sont équipés jusqu'aux dents avec des machines pas possibles. Je veux dire, j'ai une machine de 50 livres à côté de moi, là. Mais je suis pas un joueur de Call of Duty, par exemple. Mais tu sais, je veux dire, il y a cette culture du gamer qui fait que c'est des produits qui sont visés directement vers le gamer. C'est « Hey, toi, tu joues à Modern Warfare, achète ça, ça va t'aider », tandis que c'est de la...
C'est une clientèle cible, là, tu sais, c'est comme n'importe quel jeu, là, que c'est des grosses séries, NHL, ça va tout le temps être la même clientèle qui va aller vers ça, là.
Présentement, sur le chat de notre émission sur YoStream, il y a quelqu'un qui a une idée géniale, ce Cybermaniax qui nous dit qu'on devrait donner de la salade avec huile vinaigre entre deux headshots. Yes!
Je veux dire, ben c'est justement, c'est si tu veux fidéliser les gens, il faut que tu leur donnes des récompenses, pas leur demander de foutre plus d'argent.
C'est peut-être
parce que...
une récompense. Eux autres, ils en achètent plein de la liqueur puis des chips. Ils sont contents d'avoir un plus par rapport à ce qu'il y aurait normalement, ce qui est rien. Puis là, ils ont quelque chose, fait qu'ils sont contents, puis ils sont fidélisés.
Non, j'avoue que... Je veux dire, au
c'est
niveau de la fidélisation...
Au niveau politically correct, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu off, cette campagne-là. Il y aurait peut-être lieu de trouver des positionnements un petit peu plus clean que de la malbouffe, je suis d'accord. Mais ils sont quand même pile dedans.
Ah, oh, ils sont effectivement pile dedans.
Qu'est-ce que c'est ça?
Je sens des guns, donc ça veut dire probablement on... Bruno devrait peut-être calmer ses arguments et laisser quelqu'un d'autre parler, je crois.
C'est ça. Bon, on a perdu le contrôle, tout va bien.
Alors, tout se passe-t-il? On a perdu Bruno dans une bataille de...
Ah, je suis touché, là. Je suis en train de saigner. Okay. Non, non.
Ah, mais prends un Pepsi, tu vas aller bien mieux.
Dites à ma femme que je l'aime, non.
Vite, un Doritos et deux Mountain Dew.
Ah, j'ai gagné l'XP, je peux continuer. Je veux dire, on n'est pas rendu à l'ère de Gauntlet qu'il faut mettre des 25 cents parce que Red Warrior needs food badly. On n'est pas rendu là, mais je veux dire, la journée que va falloir acheter des Doritos pour continuer de tirer du monde, là, ça va être grave.
Surtout bon. Qu'on s'entend que les chips n'arrêtent pas d'augmenter, là.
Là, on se lancera pas dans les guerres de prix. Là.
Mais sur une dernière note, je veux simplement dire, aux États-Unis, une personne sur trois est atteinte d'obésité. Et quand je parle d'obésité, là, pensez pas au gars qui pèse 800 livres, qui a de la misère à marcher ou qui roule pour aller chez eux. L'obésité, ça commence à la minute que tu dépasses un peu ton poids santé. Tu sais, t'as l'embonpoint, mais c'est pas gros entre poids santé et embonpoint. Après ça, t'es obèse. Une fois que tu es obèse, là, c'est quand tu es rendu sur une personne sur trois, puis on s'entend qu'aux États-Unis, on a vu des cas assez exemplaires de « Oh mon Dieu, comment il fait pour marcher? » Je veux dire, quand tu essaies de nettoyer cette image-là, cette promotion-là, selon moi, j'aime ça gosser dans le non-politically correct, mais en même temps, les gamers aux États-Unis, c'est pas les personnes les plus en santé sur la planète. Même à travers le monde, je veux dire, c'est pas du monde qui ont des bonnes habitudes, et je veux dire, ça propage pas les bonnes habitudes, je veux dire, moi, gamer et prendre un verre d'eau, j'ai pas cette association-là, j'ai besoin d'avoir soit un Pepsi, une bière ou quelque chose qui est pas nécessairement bon pour ma santé, mais une bière, c'est bon pour plein d'autres choses, je crois.
C'est ça. Bon, ben, coudonc, on a déjà fait le tour de nos sujets pour la soirée.
Déjà, ça nous a pris à peine 48 minutes.
Ben, je suis quand même fier de nous autres. Si on check nos enregistrements, nos gros podcasts enregistrés, on est plus disciplinés, je trouve.
Ben, oublie pas qu'on est moins nombreux un peu.
Absolument. Ah, puis Lynn n'est pas là, fait qu'il y a beaucoup moins de jasette. Ça se peut, je mange une claque.
Oh! Ouais.
On la voit pas assez souvent à Musique Plus, là. Fait que, tu sais, moi, j'aurais cru qu'elle aurait pris la relève aujourd'hui. Mais
moi, je pensais qu'elle était pour remplacer à l'animation carrément, là. Je comprends pas ce qui se passe.
Ouais, tu sais, Denis Talbot, là, c'est dépassé, là.
Lance-toi, Denis.
Ouais, mais c'est
une joke, Denis.
Il est en train de la former. C'est juste ça. Être en formation. Juste avant qu'on rappe l'émission, je veux juste remercier vite fait Steve Lévesque. Il est sur le chat en ce moment, c'est Camelot78. C'est lui qui m'a aidé un peu à monter la technologie pour qu'on soit capable de diffuser live.
Avec, ben c'est bien parce que ça a très très bien fonctionné. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous critiquaient d'avoir une qualité sonore un peu mauvaise les deux premiers podcasts parce qu'on, avouons-le, on patine, on apprend à nos débuts. Ben là, je pense que ce soir, on a atteint quelque chose de pas mal intéressant.
Ah ben oui, mais je pense qu'on peut faire mieux encore. Je me sens encore comme un petit chevreuil sur la glace.
Mais Alex, sur la glace avec le loup qui se regarde en arrière.
La caméra.
Pardon, Laurent?
Alexandre, sur Twitter, nous demande à quand la caméra.
La caméra, ben on en a parlé assez rapidement, mais c'est dans nos projets à venir. Probablement que à l'avenir, on check ça, mais on risque d'enregistrer... en vidéo, un enregistrement de notre podcast qu'on va pouvoir partager avec vous sur le site. Question que vous nous voyez la face et que vous puissiez confirmer à vos amis que je suis toujours en bobette pendant les podcasts.
Est-ce que on précise qu'on te voit pas. Hein? Nous autres, on te voit pas en bobette. Là.
Non.
C'est juste Lynn qui te voit en bobette. Là.
Oui, absolument.
Je sais pas si c'est une bonne idée.
Ce n'est que pour ses yeux. Hey, voyons, t'es-tu en train de dire que...
Je voudrais reconsidérer.
Je voudrais ne plus prêter ma caméra, s'il vous plaît.
Alors, donc, j'aimerais juste apporter quelque chose.
Amène-les.
Peut-être finir l'émission sur peut-être un débat ou peut-être une rumeur.
Oh non.
Oh oui, j'aime les rumeurs, voyons. Donc, j'imagine que vous avez vu mon billet de blog la semaine passée sur Super Smash Universe.
Ouais, qu'est-ce que c'est ça?
Super Smash Universe, c'est, si vous avez lu mon article, vous avez à peu près le minimum qu'on a en ce moment. Super Smash Universe, c'est tout simplement la nouvelle version de Smash que Sakurai, Masahiro Sakurai, le créateur justement de Super Smash Kirby et tout plein d'autres jeux qu'on se rappelle, a annoncé un peu de manière prématurée au E3. Quand il n'avait pas encore fini son projet qui est Kid Icarus en ce moment, et Kid Icarus a été reporté en 2012. Donc, Super Smash Universe voudrait. Ben, Universe, il recherchait le nom par rapport à la Wii U et utiliserait le U de la Wii U pour faire Super Smash Universe.
Oui, je vais essayer de mettre le supposé logo du jeu en onde dans quelques secondes.
C'est ça. Mais tout simplement, le mémo dirait que premièrement, il y aurait un plus grand support des personnages de troisième partie. Quand on parle de personnages de troisième partie, on parle de comme Snake, comme Sonic, mais là, il y aurait d'autres personnes qui seraient impliquées. Qui sait, est-ce qu'on aurait le prince de Perse? Est-ce qu'on aurait Sam Fisher? Est-ce qu'on aurait d'autres personnages comme ça? Là, j'en mentionne Ubi parce que c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais imaginez que ça soit la plus grande baston de l'histoire avec le système de Super Smash Brothers, mais avec des personnes... Tu sais, je veux dire...
Ça serait vraiment drôle.
Ça serait vraiment drôle. Écoute,
ça serait juste vraiment drôle. Mixer des affaires qui n'ont aucun rapport ensemble.
Ben, l'arrivée de Solid Snake dans le dernier, là.
Et on a finalement pu régler une question qui était vraiment essentielle quand on était petit gars. C'est qui, entre Mario et Sonic, qui allait péter la gueule à l'autre? Les résultats sont assez, je pourrais dire, égales. Mais reste qu'on peut finalement faire le truc qu'on a toujours voulu faire quand on était petit. Mario contre Sonic, puis pas dans un jeu qui se passe aux Olympiques. Vraiment, à coup de poing sur la gueule.
Tu parles d'un très bon jeu, là. C'était tellement ordinaire, ça. Mais qui va acheter la Wii U? Tiens, partons ça.
C'est silencieux. Hein?
Ouais, mais oui, je pense que ça fait longtemps là, que je l'ai, là. Peut-être dû pour une autre, mais je suis pas convaincu encore. J'attends vraiment de voir les jeux qui vont être offerts. Qu'est-ce que ça va offrir comme immersion? Comme immersion avec la manette puis toute la quête. Ouais. Parce que pour l'instant, je sais pas. C'est peut-être juste un Wii Plus.
Oh, c'est ouais. Ça.
Avec des en 2012, je crois.
En 2012.
Oui, si j'ajoute une console, moi, en 2012, avec la PlayStation Vita.
Oui, il y a Lynn qui dit la même chose sur le chat, d'ailleurs.
J'aime mieux le NGP parce que Vita, ça sonne comme une bouteille d'eau. J'ai acheté de la PlayStation Vita, je bois de la PlayStation Vita.
Bonne PlayStation Vita, santé.
Zéro calorie.
Moi, pour la Wii, j'ai déjà possédé une Wii par le passé quand il n'y avait pas tant de titres que ça, mais je veux dire, la seule raison pourquoi j'achèterais une Wii en ce moment, ça serait pour Zelda, parce que le nouveau Zelda qui s'en vient a l'air juste malade. Il a l'air du calibre de Ocarina of Time.
C'est ouais, j'ai hâte de voir ça, moi aussi. C'est une de mes attentes. Ça.
C'est le fanboy en moi qui parle. Je suis
un petit peu. Je l'ai réservé, puis j'hésite. Moi aussi, je suis un fanboy, puis en tout cas, j'ai hâte. Il faut que je le joue pour le.
On s'entend, Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, a parlé que si ce n'était pas, selon lui, le meilleur Zelda, parce qu'on s'entend, les Zelda qui ont sorti étaient tous excellents. Mais je veux dire, ceux qui sont restés dans le cœur et qu'on en parle encore, c'est un peu... Moi, j'appelle ça le syndrome de Final Fantasy VII, pour être très honnête. C'est Ocarina of Time et Majora's Mask. Les autres qui sont sortis après, c'est... Oui, c'était bien, mais j'ai mieux aimé ceux-là au Nintendo 64. Est-ce que c'était parce qu'on a fait une transition au 3D? Est-ce que c'était parce que l'histoire de Majora's Mask était juste revirée sur le couvert? On le sait pas, mais... Shigeru Miyamoto a dit si ça c'est pas le Zelda d'une génération, on n'en fait plus. Fini.
Wow. Après, c'est fini. tout un challenge.
Ouais.
Il a dit ça parce que c'est clair que je veux dire Satoru Iwata, je connais pas mal tous les noms de Nintendo, ça fait peur. Satoru Iwata, le président de Nintendo, laissera pas passer ça naturellement parce que, je veux dire, c'est une franchise que, à minute que tu sors un Zelda, écoute, Zelda Spirit Tracks au Nintendo DS, tout le monde était comme, attends, un Zelda avec un train, quoi? C'est un des Zelda que j'ai eu énormément de fun juste à cause du petit sifflet du train, pour être bien. Tu sais, c'est fui, ça arrêtait pas, là, mais en tant que tel, pour Spirit Tracks, ça a été... Pour moi, c'était un bon vieux Zelda over the top mélangé avec Wind Waker parce qu'on voyageait beaucoup en train. Parce que Wind Waker, c'était vraiment ça. C'était du bateau. Ah, une île, tu débarques sur l'île, t'as un donjon. Du bateau. Et ainsi de suite. Mais selon vous, est-ce que votre Zelda de la génération, est-ce que c'est... Parce qu'il y en a beaucoup qui mentionnent A Link to the Past. Il y a beaucoup de gens qui mentionnent Ocarina of Time. Moi, c'est surtout Ocarina of Time.
Talk to one of these four Oops. Ladies, and we will save them.
Excusez.
C'est quelqu'un qui s'est enfargé dans le DJ.
Bon, ça. Mais c'est quel Zelda, et je demande ça aussi pour l'audience, c'est quel Zelda qui a défini votre génération? Parce que tout le monde se rappelle d'un jeu, moi ça a été Zelda Ocarina of Time. Écoute, ça a terrorisé mon enfance à cause des zombies qui crient puis qui embarquent sur ta face et ils font des choses. Là. Mais bref, j'aimerais ça savoir si vous avez un Zelda qui a défini. Est-ce que c'est Majora's Mask? Est-ce que c'est Ocarina of Time, Link to the Past, le premier Zelda? J'aimerais ça si l'audience et vous, la gang, me disiez c'est quoi votre Zelda?
Ben, à date, les réactions qu'on a, en fait, sur le chat de Ustream, il y a Camelot78 qui nous dit que c'est Zelda 1. Puis Nightwave aussi, Zelda 1. On dirait que déjà avec la tendance rétro gaming, tout le monde est tombé dans un élan de nostalgie. Puis on dirait que tout le monde essaye de voir d'où est parti son intérêt pour tel jeu ou telle série de jeux. Puis c'est vrai que le premier... le deuxième, je pense, voilà. C'était Legend of Zelda, je pense, ou...
Link Adventure of Link.
Ouais. Ah, c'est ça, OK.
Moi, c'est le 2. Adventure of Link avec la cassette dorée.
La cassette en or que tu pouvais sauvegarder ta partie.
Oui, c'est exactement. C'était comme absolument fantastique de pouvoir faire ça.
C'était le premier Zelda qui avait apporté cette notion-là parce qu'il avait mis une batterie dans la cassette pour garder les données... C'était vraiment simple, c'était vraiment...
Ouais, innovateur en même temps, de oser faire ça là, dans la cartouche, là, c'était particulier. Là.
Vous savez que les cassettes de Zelda fonctionnelles avec un save game fonctionnel en ce moment valent relativement cher parce que c'est du ou changer la batterie à l'intérieur. Mais ceux, les originales avec la batterie originelle sont très rares, ceux qui sont fonctionnels aujourd'hui à cause que la batterie est finie.
Ah, ça vaut pas juste
c'est
cher
ça,
parce
la
que...
remplacer la pile, là, mais après ça... Je pourrais peut-être faire un petit renouveau, un petit upgrade sur la mienne puis la vendre sur eBay.
Mais je veux dire, toutes les cartouches, même les cartouches de Nintendo 64, à part si on avait la memory card, mais même là, on avait le choix d'aller avec la carte mémoire ou pas. Ouais. C'était plus, je pense que c'était plus avec le GameCube que c'était obligatoire. Quand on parlait du Nintendo 64, c'était encore un système à batterie.
On a une réponse là sur le Twitter de Amy Oak qui nous dit que son meilleur Zelda, c'est Ocarina of Time.
Ah!
C'est d'ailleurs le seul que je me suis risqué à essayer chez un ami. Puis moi, j'aimais la mécanique du jeu. J'aimais vraiment le fait que ce soit en 3D. Ce soit quand même assez, extrêmement ouvert. Mais dès qu'il est venu le temps de jouer de la musique sur l'Ocarina, là, oulala!
Si on parle de la nostalgie des jeux, parlons donc un peu de les jeux de PC. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a initié, vous, à aller à jouer sur le PC? Moi, ça a été Diablo 2 qui a été une pleine révélation, qui a été un MMO avant son temps, disons-le, parce qu'on s'échangeait des items et on combattait des monstres, parfois 4 à la fois. Donc, il y a du monde qui sont naturellement plus vieux que moi qui vont sûrement dire des titres que je connaîtrais pas, mais ceux qui ont joué sur PC, c'est quoi votre jeu qui a fait que vous vous êtes rendu compte que l'ordinateur était utile pour jouer au jeu? Et je parle pas de solitaire.
Je peux même pas répondre. Space Quest
3. Ah, j'étais pas loin de Laurent. Moi, c'est Police Quest.
Oui! Police Quest, trop awesome.
J'ai toujours joué sur console.
Ah! Oh,
le jeu de Sierra, c'était tellement le fun. Je dis, toutes les King Quest, je les ai faites, puis c'est long.
Des bons jeux de texte, là.
C'est tout ce que je me rappelle, c'est que c'est long.
Ben, j'ai le premier jeu à valeur graphique, parce qu'on s'entend que Police Quest, c'est plus ou moins graphique, là. C'est surtout du texte.
C'était assez horrible.
Mais le premier jeu à valeur graphique qui m'a vraiment accroché, puis j'ai fait comme, coudon, je pourrais aimer ça, cette histoire-là. Ça s'appelait Stunt. C'était un jeu où tu
pouvais faire des loops avec une voiture de course.
C'est ça, tu pouvais créer tes pistes dans un environnement semi-3D à des très bas taux de polygones. Mais écoute, c'était super, super. J'ai accroché à ça, puis aussi Wolfenstein 3D, le premier.
Ah ben oui.
On a deux autres réponses pour Zelda. Safe Solvent sur Twitter qui nous dit son Zelda préféré, c'est la fille de Robin Williams.
C'est vrai,
j'aime ça.
Et Sinister qui nous dit encore une fois Ocarina of Time.
Ça, donc, c'est Ian Richards.
on a quand même les deux générations pour Zelda. Je veux dire, il faut qu'on ait un Zelda qui ait défini la génération. Je veux dire, mon frère qui a une trentaine d'années, lui, ça a été A Link to the Past qui a mangé tout rond. Et je trouve que, tu sais, je veux dire, A Link to the Past, c'est excellent. Je veux dire, j'y ai joué puis j'ai accroché. Mais quand j'étais jeune, ben, je savais pas trop lire l'anglais. Donc, je faisais juste comme, ah, oh, un garde, bon, ben, je vais soigner mon épée jusqu'à temps qu'il
meure. Je vais t'arrêter, Bruno. A Link to the Past sur le Super NES a été disponible en français au Québec.
Oui, effectivement, ça a été un des premiers jeux, je pense. Hein?
Oui. Je ne sais pas, j'en ai vu plusieurs en anglais, mais j'en ai vu aussi plusieurs en français. Je ne sais pas où est-ce qu'il fallait les acheter, là, mais...
Il y avait certains magasins qui les avaient.
Sur le chat de Ustream, il y a Metallica qui vient de me faire sortir un souvenir incroyable de la tête. Pitfall.
Oh mon Dieu, ça c'était sur l'Atari 2600, je crois.
Il l'a eu sur le Commodore 64 aussi, probablement au Coleco, si je me trompe pas, mais écoute, si tu parles de classique, tu parles de classique, mais faut dire qu'on n'est peut-être pas tous dans la même génération. Là.
Je pense que Pitfall a été fait par Activision, je crois. Ça a été dans. Je pense que c'était leur premier jeu, même. Je vais vérifier mon information avant de peut-être mal guider nos chers amis qui nous écoutent en ce moment.
En tout cas,
Pitfall. Ça a été fait par Activision en 1982, donc c'est vraiment un jeu. La compagnie Activision est là depuis très longtemps, d'ailleurs.
Puis maintenant, ils s'allient à Pepsi pour essayer de vendre des affaires.
Et voilà.
On fait un retour.
Mais pour vrai, ça, c'est un débat qu'on pourrait peut-être garder même pour notre prochain épisode, là, si on se plonge dans la tendance rétro gaming, nostalgie de joueurs. Je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant 10 heures.
On va mettre ça comme sujet pour un prochain podcast.
Absolument. Le prochain épisode va durer minimalement 10 heures.
Oui, je vais aller chercher mon Game Boy et vous clencher une game de Tetris.
Et voilà. Oh oui. Préparez vos sleeping bags, ça va torcher. J'ai-tu dit torcher? Ah, je pense que j'ai dit torcher. Je m'excuse.
Ça torche.
Tu te prépares à avoir un enfant, fait que un deuxième.
Ouais, c'est ça.
Je pense que tu vas torcher longtemps.
Et voilà. Fait que je pense que sans vouloir couper ça trop court, je pense qu'on pourrait rapper cela, les amis, parce qu'on a déjà fait une heure. Puis je bave sur mon clavier.
Et oui, on a notre journée dans le corps quand même. Hein.
Mais soyez généreux, ceux qui nous écoutent. On aimerait vraiment avoir vos commentaires parce que c'est une autre expérience qu'on débute. Puis on va se fier énormément sur vos commentaires, vos suggestions pour essayer de s'améliorer et d'avoir un produit incroyablement cristal.
Oui, puis on vous rappelle qu'à partir de maintenant, on va répéter l'expérience de façon régulière aux deux semaines.
Absolument.
Les mercredis soirs à 20h.
20h. Soyez pas là à 20h01, vous allez toutes manquer.
Oui, et on pourrait faire le tour et dire où on pourrait nous rejoindre.
Absolument. J'y arrivais. Tu m'as dépassé par la droite, pas de flash.
Pardon.
Alors, voilà. Premièrement, j'aimerais remercier moi. Parce que
j'ai été d'une
présence incroyable et je sais que c'est une petite gâterie pour vous autres de m'entendre le soir comme ça. Et puis, non, mais pour vrai, j'aimerais remercier toute l'équipe qui était avec nous ce soir. Il y a certains membres de l'escouade geekbécois de la Geek Mafia qui n'ont pas pu être là ce soir, mais ils seront là pour des futurs épisodes. Donc, ce soir, on avait Bruno Pierre, mon cher. Comment on te rejoint, Bruno Pierre?
Ben, on peut me rejoindre sur Geekbécois, naturellement, en lisant mes articles. Sinon, sur mon Twitter, @ZerodsWorkshop. Sinon, je suis aussi sur Google+. On peut me chercher, c'est Bruno Pierre Campo sur Google+. Et aussi sur Facebook, s'il vous plaît, ne me friendez pas trop. J'ai quand même une grosse liste et parfois j'ai de la misère à répondre à mes amis.
Et puis, une façon très facile de te rejoindre aussi, ça serait d'aller directement sur geekbécois.com. Lire un de tes nombreux articles, puis tu as déjà des coordonnées d'attacher à chacun de tes articles.
Mon numéro de téléphone est là.
Assurance sociale.
Dont il y a une de mes amies à Toronto qui cherchait mon numéro de téléphone, ben, elle peut le pogner là.
Et voilà.
Ben, en fait, pour tout le monde, ce que je pourrais dire qui est très facile, c'est d'aller sur le site de geekbécois.com.
Voilà.
En haut, dans le menu, un item qui s'appelle « À propos des geeks ». On est tous là avec nos coordonnées sur tous les réseaux sociaux. On peut faire le tour puis se retrouver.
On a presque tous des belles photos. La mienne s'en vient. Désolé.
Je crois que moi, je suis en train de me faire manger par un Domo Kun.
Bon, on va te laisser là-dessus.
Non, tu n'as pas updaté sur le site, mais tu l'as ailleurs.
C'est vrai, elle est sur Google Plus comme ça, mais pas sur Twitter, mais pas sur les sites. Hey, on s'étire sur n'importe quoi. Je veux remercier Laurent aussi, Laurent Chouinard.
Yellow!
Alors, toi aussi, évidemment, point de base pour te rejoindre, c'est sur geekbecois.com.
Et ouais, exactement. Mes adresses sont toutes là, réseaux sociaux.
Fait que voilà, ben ça va être pas mal là qu'on va rejoindre tout le monde, dont Alexandra Gervais qui est avec nous ce soir. Qui a parlé de cinéma, de Bollywood. Une petite chanson pour finir? Non, OK.
Bien sûr, bien sûr. Pareil, joignable sur geekbecois.
Absolument. Sur Twitter aussi, Alexandra Gervais, pas de S.
Pas de S parce que ça rentrait pas.
Ah, ben voilà.
C'est original.
Je pensais que tu voulais être cool, mais non, c'est vraiment parce
non,
que...
Non, non.
D'accord. Et puis, Alexandra, tout comme Bruno et Laurent, écrivent de super bons articles sur Geekbécois, gênez-vous pas. Et le dernier de nos chroniqueurs qui était là ce soir, un petit peu moins présent, mais bon, il va se dégêner, c'est Jean-François.
Bien sûr, c'est moi, le gêné, là.
Le petit gêné.
Eh oui.
Jean-François, qui d'ailleurs nous a préparé tout un article sur la trilogie de Splinter Cell HD.
Eh oui, écoute, moi, la série, je l'aime bien, hein. Mais faire... moi, c'était ma première critique sur un jeu qui en inclut trois, hein.
Fait oui, que, absolument.
C'était pas ce qui est le plus évident, là. Fait qu'en espérant que vous l'aviez aimé. Puis bon, comme tu dis, ben moi, on peut me rejoindre sur geekbecois.com et sur Twitter à DJEEF83. Ça se prononce Jeef.
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 Pour vrai, là, je te l'ai jamais demandé, puis je suis content que tu en parles parce que jamais j'aurais su comment tu prononçais ça.
Eh oui.
Je me suis dit, c'est-tu Jeff? J-O-F? Et voilà. Alors, c'est pas mal tout pour nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoutez, c'est notre premier épisode, puis on a eu quand même une solide audience. Merci d'avoir participé, puis on espère que vous allez continuer à participer au prochain. Autant
et
sur
merci
le chat.
À toi, Steve, pour une excellente animation.
Ah, je ne suis qu'un remplaçant. Dans le fond, je suis
ben, t'as bien remplacé.
Je suis une marionnette.
Bon, ça dans le sang.
Je suis une marionnette, c'est Lynn qui me dirige.
Est-ce que vous vous animez l'un l'autre le soir quand vous vous couchez, vous endormez?
Écoute, je veux pas savoir ça.
Non, écoute, avant qu'on s'endorme, on finit notre show, il y a un générique qui apparaît sur le mur, c'est incroyable. On est solide, solide. Non, pour vrai, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Prochain épisode va sûrement être animé par Lynn, donc ça va être un peu plus tight. Et puis, dans deux semaines. Donc, le prochain podcast mensuel devrait s'en venir bientôt. On commence à travailler dessus pour vous donner un produit de qualité. Et puis, ben, c'est ça. On vous laisse sur notre beau petit thème que j'ai préparé en exactement 12 secondes l'autre soir. Puis, merci d'avoir été là. Rejoignez-nous dans deux semaines, mercredi 20h.
Bye tout le monde.
À bientôt.
Vous êtes mieux d'être là. Si vous n'êtes pas là, je vais vous chercher. Adios! Ça me tente de parler sur le thème. Tac-tac-tac-tac-tac-tac.
Hey, arrête de parler.
Mais c'est pas moi. Je l'ai dit, je suis une marionnette. C'est Lynn qui est en arrière de moi puis qui me... Bon, je parle trop. Bonsoir tout le monde.